Balthazar Gracian, L'homme de cour. 266. N'être pas méchant, d'être trop bon. Celui-là n'est bon à rien qui ne se fâche jamais. Les insensibles tiennent peu du véritable homme. Ce caractère ne vient pas toujours d'indolence, mais souvent d'incapacité. Se ressentir quand il faut, c'est une action de maître homme. Les oiseaux ne tardent pas à se moquer des mannequins. Mais l'aigre et le doux, c'est la marque d'un bon goût. La douceur toute seule ne sied qu'aux enfants et aux idiots. C'est un grand mal que de donner dans cette insensibilité à force d'être trop bon. 267. Parole de soi. Les flèches percent le corps, les mauvaises paroles, l'âme. Une bonne patte fait bonne bouche. C'est une grande adresse dans la vie que de savoir vendre l'air. Presque tout se paye avec des paroles, et elles suffisent pour tirer d'affaire dans l'impossible. L'on négocie en l'air et avec de l'air, et une haleine vigoureuse et de longue durée. Il faut avoir la bouche toujours pleine de sucre pour confier les paroles, car alors les ennemis même y prennent goût. L'unique moyen d'être aimable, c'est d'être affable. 268. Le sage doit faire au commencement ce que le fou fait à la fin. L'un et l'autre font la même chose. La différence est que l'un l'a fait à temps et l'autre à contre-temps. Celui qui, au commencement, s'est chauffé l'entendement à rebours, continue de même dans tout le reste. Il tire avec les pieds ce qu'il devait porter sur la tête, et de sa main droite il en fait sa main gauche, de sorte qu'il est gaucher dans toute sa conduite. Au bout du compte, il arrive toujours que ces gens-là font par la force ce qu'ils eussent pu faire de bon gré. Au lieu que le sage voit d'abord ce qui se doit faire de bonne heure ou à loisir, et l'exécute avec plaisir et réputation. 269. Se prévaloir de sa nouveauté. Car, tant qu'elle durera, l'on sera estimé. Elle plaît universellement à cause de sa variété qui réveille le goût. On estime plus une chose commune, qui est toute nouvelle, qu'une rareté que l'on voit souvent. Les excellences s'usent et vieillissent bientôt. Cette gloire de la nouveauté durera peu. Au bout de 4 jours, on lui perdra le respect. Prévaut-toi donc des prémices de l'estime, en tirant à la hâte tout ce que tu peux t'attendre d'une complaisance passagère. Car, si une fois la chaleur d'être tout récent vient à se passer, la passion se refroidira, et ce qui plaisait comme nouveau déplaira comme commun. Chaque chose a eu son temps, et puis a été négligée. 270. Ne point condamner tout seul ce qui plaît à plusieurs. Car il faut qu'il y ait quelque chose de bon, puisque tant de gens sont contents, et bien que cela ne s'explique point, on ne laisse pas d'en jouir. La singularité est toujours odieuse, et lorsqu'elle est mal fondée, elle est ridicule. Elle décrira plutôt la personne que l'objet, et par conséquent, on restera seul avec son mauvais goût. Que celui qui ne sait pas discerner le bon cache son peu d'esprit et ne se mêle pas de condamner à la volée, car le mauvais goût naît ordinairement de l'ignorance. Ce que tout le monde dit est ou veut être. 271. Que celui qui sait peu dans sa profession s'en tienne toujours au plus certain. Car s'il ne passe pas pour subtil, il passera du moins pour solide. Celui qui sait peut s'engager et faire à sa fantaisie. mais de savoir peu et de risquer, c'est un précipice volontaire. Tiens toujours la main droite, ce qui est autorisé ne saurait manquer. Un peu de savoir, chemin royal. Et encore, la sûreté vaut mieux que la singularité, tant pour le savant que pour l'ignorant. 272. Vendre les choses à prix de courtoisie. C'est le moyen d'obliger davantage. La demande de l'intéressé n'égalera jamais la bonne grâce à donner d'un cœur généreux, obligé. La courtoisie ne donne pas, mais elle engage. Et la galanterie est ce qui rend l'obligation plus grande. Rien ne coûte plus cher à un homme de bien que ce qu'on lui donne galamment. C'est le lui vendre deux fois et à deux prix différents, l'un de ce que vaut la chose et l'autre de ce que vaut la bonne grâce. Mais il est vrai que la galanterie n'est pas une marchandise à l'usage des coquins, parce qu'ils n'entendent rien au savoir-vivre. 273. Connaître à fond le caractère de ceux avec qui l'on traite. L'effet est bientôt connu quand on connaît la cause. On le connaît premièrement en elle, puis en son motif. Le mélancolique augure toujours des malheurs, et le médisant des fautes. Tout le pire s'offre toujours à leur imagination. Et comme ils ne voient point le bien présent, ils annoncent le mal qui pourrait arriver. L'homme, prévenu de passion, parle toujours un langage différent de ce que sont les choses. La passion parle en lui et non pas la raison. Chacun juge selon son caprice ou son humeur, et pas un selon la vérité. Apprends donc à déchiffrer un faux semblant et à épeler les caractères du cœur. Étudie-toi à connaître celui qui rit toujours sans raison et celui qui ne rit jamais à faux. Défie-toi d'un grand questionneur comme d'un imprudent ou d'un espion. N'attends presque rien de bon de ceux qui ont quelques défauts naturels au corps, car ils ont coutume de se venger de la nature en lui faisant aussi peu d'honneur qu'elle leur en a fait. D'ordinaire, la sottise est à proportion de la beauté. 274. Avoir le don de plaire. C'est une magie politique de courtoisie. C'est un crochet galant, duquel on doit se servir plutôt à attirer les cœurs qu'à tirer du profit, ou plutôt à toute chose. Le mérite ne suffit pas s'il n'est secondé de l'agrément, dont dépend toute la plausibilité des actions. Cet agrément est le plus efficace instrument de la souveraineté. Il y va de bonne heure de mettre les autres en appétit. Mais l'artifice y contribue. Partout où il y a un grand naturel, l'artificiel y réussit encore mieux. C'est de là que tire son origine un je ne sais quoi qui sert à gagner la faveur universelle. 275. Se conformer à l'usage, mais non pas à la folie commune. Ne tiens pas toujours ta gravité. C'est une partie de la galanterie de relâcher quelque chose de la bienséance pour gagner la bienveillance commune. Quelquefois, on peut passer par où passent les autres, et pourtant sans indécence. Celui qui est tenu pour fou en public ne sera pas tenu pour sage en particulier. L'on perd plus en un jour de licence que l'on ne gagne par un long sérieux. Mais il ne faut pas être toujours d'exception. Être singulier, c'est condamner les autres. C'est encore pis d'affecter des airs précieux. Cela se doit laisser aux femmes. Quelquefois, même les dévots se rendent ridicules. Le meilleur d'un homme est de le paraître. La femme peut avoir bonne grâce d'affecter un air viril, mais l'homme ne saurait honnêtement s'en donner un de femme. 276. savoir renouveler son génie par la nature et par l'art. On dit que l'homme change de caractère de 7 en 7 ans. À la bonne heure si c'est pour se perfectionner le goût. Dans les premiers 7 ans, la raison lui vient. Qu'il fasse en sorte qu'à chaque engagement, il lui vienne quelques nouvelles perfections. Il doit observer cette révolution naturelle pour la seconder et pour aller toujours de mieux en mieux dans la suite. C'est par là que plusieurs ont changé de conduite, soit dans leur état ou dans leur emploi. Et quelquefois, on ne s'en aperçoit pas jusqu'à ce que l'on voit l'excès du changement. À 20 ans, ce sera un paon. À 30, un lion. À 40, un chameau. À 50, un serpent. À 60, un chien. À 70, un singe. À 80, rien. 277. L'homme d'ostentation. Ce talent donne du lustre à tous les autres. Chaque chose a son temps, et il faut épier ce temps, car chaque jour n'est pas un jour de triomphe. Il y a des gens d'un caractère particulier, en qui le peu paraît beaucoup, et que le beaucoup fait admirer. Lorsque l'excellence est jointe avec l'étalage, elle passe pour un prodige. Il y a des nations ostentatives, et l'espagnol l'est au suprême degré. La montre tient lieu de beaucoup et donne un second être à tout, et particulièrement quand la réalité la cautionne. Le ciel, qui donne la perfection, y joint aussi l'ostentation, car sans elle, toute perfection serait dans un état violent. À l'ostentation, il faut de l'art. Les choses les plus excellentes dépendent des circonstances, et par conséquent, elles ne sont pas toujours de saison. Toutes les fois que l'ostentation s'est faite à contre-temps, elle a mal réussi. Rien ne souffre moins l'affectation. Et c'est toujours par cet endroit que l'ostentation échoue, parce qu'elle approche fort de la vanité, et que celle-ci est très sujette au mépris. Car son trop l'a déjà décrédité parmi les gens d'esprit. Quelquefois, elle consiste dans une éloquence muette et dans l'art de montrer la perfection comme par manière d'acquis, car une sage dissimulation est une parade plausible, cette même privation aiguillonnant plus vivement la curiosité. Sa grande adresse est de ne pas montrer toute sa perfection en une seule fois, mais seulement par pièces, et comme s'il en était à la peindre peu à peu, pour en découvrir toujours davantage. Il faut qu'un bel échantillon engage à montrer quelque chose qui soit encore plus beau, et que l'applaudissement donné à la première pièce fasse désirer impatiemment de voir toutes les autres. 278. Fuir en tout d'être remarquable. À l'être trop, les perfections mêmes seront des défauts. Celui-ci vient de la singularité, et la singularité a toujours été censurée. Quiconque fait le singulier demeure seul. La politesse même est ridicule si elle est excessive. Elle offense quand elle donne trop dans la vue. À plus forte raison, les singularités extravagantes doivent-elles choquer. Cependant, quelques-uns veulent être connus par les vices mêmes, jusque à chercher la nouveauté dans la méchanceté et à se piquer d'avoir un si mauvais renom. En fait d'habileté, le trop dégénère en charlatanerie. 279. Laisser contredire sans dire. Il faut distinguer quand la contradiction vient de finesse ou de rusticité. Car ce n'est pas toujours une opiniâtreté, quelquefois c'est un artifice. Prends donc garde à ne te pas engager dans l'une ni laisser tomber dans l'autre. Il n'y a point de peine mieux employée que celle d'épier, ni de meilleure contrebatterie contre ceux qui veulent crocheter la serrure du cœur que de mettre la clé de la retenue en dedans. 280. L'homme de bonne alloi. Il ne reste plus de bonne foi. Les obligations sont mises en oubli. Il y a peu de bonne correspondance. Au meilleur service, la pire récompense. Aujourd'hui, le monde est ainsi fait. Il y a des nations entières enclines à mal agir. Des unes, la trahison en est toujours à craindre. Des autres, l'inconstance. Et de quelques autres, la tromperie. Sers-toi donc de la mauvaise correspondance d'autrui, non comme d'un exemple à imiter, mais comme d'un avertissement d'être sur tes gardes. L'intégrité court risque de biaiser à la vue d'un procédé malhonnête. Mais l'homme de bien n'oublie jamais ce qu'il est à cause de ce que sont les autres. 281. L'approbation des habiles gens. Un tiède oui d'un grand homme est plus à estimer que l'applaudissement de tout un peuple. Quand on a une arête dans le gosier, le reniflement ne fait point respirer. Les sages parlent avec jugement, et par conséquent leur approbation cause une satisfaction immortelle. Le prudent Antigonus faisait consister toute sa renommée dans le seul témoignage de Zénon, et Platon appelait Aristote toute son école. Quelques-uns ne se soucient que de remplir leur estomac, sans regarder si c'est une denrée commune. Les souverains même ont besoin de bons écrivains dont les plumes leur sont plus à craindre qu'un portrait naïf aux fameux laides. 283. Se servir de l'expédient de l'absence pour se faire respecter ou estimer. Si la présence diminue la réputation, l'absence l'augmente. Celui qui étant absent passe pour un lion, ne paraît qu'une souris étant présent. Les perfections perdent leur lustre si on les regarde de trop près, parce qu'on regarde plutôt l'écorce de l'extérieur que la substance et l'intérieur de l'esprit. L'imagination porte bien plus loin que la vue, et la tromperie qui, d'ordinaire, entre par les oreilles, sort par les yeux. Celui qui se conserve dans le centre de la bonne opinion que l'on a de lui conserve sa réputation. Le phénix même se sert de la retraite et du désir pour se faire estimer et regretter davantage. 283. Être homme de bonne invention. L'invention marque un excès d'esprit. Mais où se trouvera-t-elle sans un grain de folie? L'invention est le partage des esprits vifs, et le bon choix, celui des esprits solides. La première est plus rare et plus estimée, attendu que beaucoup de gens ont réussi à bien choisir, et très peu à bien inventer, et à avoir la primauté de l'excellence aussi bien que celle du temps. La nouveauté est insinuante, et si elle est heureuse, elle relève doublement ce qui est bon. Dans les choses où il y va de jugement, elle est dangereuse à cause qu'elle donne dans le paradoxe. Dans celle où il ne s'agit que de subtilité, elle est louable. Et si la nouveauté et l'invention rencontrent bien, elles sont plausibles. 284. Ne te mêle point des affaires d'autrui, et tu ne seras point mal dans les tiennes. Estime-toi si tu veux que l'on t'estime. Sois plutôt avare que prodigue de toi. Fais-toi désirer, et tu seras bien reçu. Ne viens jamais que l'on ne t'appelle, et ne va jamais que l'on ne t'envoie. Celui qui s'engage de son chef se charge de toute la haine s'il ne réussit pas, et quand il réussit, on ne lui en sait point de gré. L'homme qui est trop intrigant est le but du mépris, et comme il s'introduit sans honte, il est repoussé avec confusion. 285. Ne pas se perdre avec autrui. Sache que celui qui est dans le bourbier ne t'appelle que pour se consoler à tes dépens quand tu seras embourbé avec lui. Les malheureux cherchent quelqu'un qui leur aide à porter leur affliction. Tels qui, durant leur prospérité, leur tournaient le dos, leur tend maintenant la main. Il faut bien aviser à ne se pas noyer en voulant secourir ceux qui se noient. 286. Ne se pas laisser obliger entièrement, ni par toutes sortes de gens. Car ce serait devenir l'esclave commun. Les uns sont nés plus heureux que les autres, les premiers pour faire du bien et les seconds pour en recevoir. La liberté est plus précieuse que tout don, et c'est la perdre que de recevoir. Il vaut mieux tenir les autres dans la dépendance que de dépendre d'un seul. La souveraineté n'a point d'autre commodité que de pouvoir faire plus de bien. Surtout, garde-toi de tenir aucune obligation pour faveur. Sois persuadé que le plus souvent l'on ne cherchera à t'obliger que pour t'engager. 287. N'agir jamais durant la passion. Autrement, on gâtera tout. Que celui qui n'est pas à soi se garde bien de rien faire par soi, car la passion bannit toujours la raison. Qu'il substitue pour l'or un médiateur prudent, lequel sera tel s'il est sans passion. Ceux qui voient jouer les autres jugent mieux que ceux qui jouent, parce qu'ils ne se passionnent pas. Quand on se sent de l'émotion, la retenue doit battre la retraite, de peur de s'échauffer davantage la bile. Car alors, tout se ferait violemment, et par quelques moments de furie, l'on s'apprêterait le sujet d'un long repentir et d'un grand murmure. 288. Vivre selon l'occasion. Soit l'action, soit le discours, tout doit être mesuré au temps. Il faut vouloir quand on le peut, car ni la saison ni le temps n'attendent personne. Ne règle point ta vie sur des maximes générales, si ce n'est en faveur de la vertu. Ne prescris point de loi formelle à ta volonté, car tu seras, dès demain, forcé de boire de la même eau que tu méprises aujourd'hui. L'impertinence de quelques-uns est si paradoxe qu'elle va jusqu'à prétendre que toutes les circonstances d'un projet s'ajustent à leur manie au lieu de s'accommoder eux-mêmes aux circonstances. Mais le sage sait que le nord de la prudence consiste à se conformer au temps. 289. Ce qui discrédite davantage un homme est de montrer qu'il est homme. On cesse de le tenir pour divin sitôt qu'on s'aperçoit qu'il tient beaucoup de l'homme. La légèreté est le plus grand contrepoids de la réputation. Comme l'homme grave passe pour plus qu'un homme, de même, l'homme léger passe pour moins qu'un homme. Nul vice ne décrédite tant que la légèreté, d'autant qu'elle s'oppose en face à la gravité. L'homme léger ne saurait être substantiel, et surtout s'il est vieux, attendu que son âge exige plus de prudence. Et, quoique ce défaut soit si commun, il ne laisse pas d'être étrangement décrié dans chaque particulier. 290. C'est un bonheur de joindre l'estime avec l'affection. Pour être respecté, il ne faut pas être trop aimé. L'amour est plus hardi que la haine. L'affection et la vénération ne s'accordent guère ensemble. Et quoiqu'il ne faille pas être trop craint, il n'est pas bon d'être trop aimé. L'amour introduit la familiarité, et à mesure que celle-ci entre, l'estime sort. Il vaut mieux être aimé avec respect qu'avec tendresse. Tel est l'amour que demandent les grands hommes. 291. Savoir faire une tentative. Que l'adresse de l'homme judicieux contrepèse la retenue de l'homme fin. Il faut un grand jugement pour mesurer celui d'autrui. Il vaut bien mieux connaître le caractère des esprits que la vertu des herbes et des pierres. C'est là un des plus grands secrets de la vie. L'on connaît les métaux au son et les personnes au parler. L'intégrité se reconnaît aux paroles, mais encore plus aux effets. C'est ici qu'il est besoin de beaucoup de pénétration, de circonspection et de précaution. 292. Être au-dessus et non au-dessous de son emploi. Quelque grand que soit le poste, celui qui le tient doit se montrer encore plus grand. Un homme qui a de quoi fournir va toujours en croissant et en se signalant davantage dans ses emplois. Au lieu que celui qui a le cœur étroit se trouve bientôt arrêté et est enfin réduit à ne pouvoir remplir ses obligations ni soutenir sa réputation. Auguste se piquait d'être plus grand homme que grand prince. C'est ici qu'il sert beaucoup d'avoir du cœur et une confiance raisonnable en soi-même. 293. De la maturité. Elle éclate dans l'extérieur, mais encore plus dans les mœurs. La gravité matérielle rend l'or précieux et la gravité morale la personne. Cette gravité est l'ornement des qualités par la vénération qu'elle leur attire. L'extérieur de l'homme est la façade de l'âme. La maturité n'est pas une sotte contenance ni une affectation de gestes précieux, comme le disent les étourdis, mais une autorité mesurée. Elle parle par sentence et agit toujours à propos. Elle suppose un homme fait, c'est-à-dire qui tient autant du grand personnage que de l'homme mûr. Dès que l'homme cesse d'être enfant, il commence d'être grave et de se faire valoir. 294. Se modérer dans ses opinions. Chacun juge selon son intérêt et abonde en raison dans tout ce que son appréhension lui représente. La plupart des hommes font céder la raison à la passion. De deux personnes qui sont d'avis contraires, l'une et l'autre présument que la raison est de son côté. Mais elle, qui est toujours fidèle, n'a jamais été à deux visages. C'est au sage de réfléchir sur un point si délicat. Et par son doute, il corrigera l'entêtement des autres. Qu'il se mette quelquefois du côté de son adversaire pour examiner sur quoi il se fonde. Cela fera qu'il ne le condamnera pas, ni qu'il ne se donnera pas lui-même si facilement cause gagnée. 295. Faire sans faire l'homme d'affaires. Ceux qui en ont le moins sont ceux qui veulent en paraître accablés. Ils font mystère de tout, et encore avec le plus grand froid du monde. Ce sont des caméléons d'applaudissements, mais de qui chacun rit à gorge déployée. La vanité a toujours été insupportable, mais ici, elle est bafouée. Ces petites fourmis d'honneur vont mendiant la gloire des grands exploits. Montre le moins que tu pourras tes plus éminentes qualités. Contente-toi de faire et laisse aux autres de le dire. Donne tes belles actions, mais ne les vends point. Il ne faut jamais louer des plumes d'or pour les faire écrire sur de la boue, qui est choqué tout ce qu'il y a de gens sages. Pique-toi plutôt d'être un héros que de le paraître. 296. l'homme de prix et de qualité majestueuse. Les grandes qualités font les grands hommes. Une seule de celles-là est équivalente à toutes les médiocres ensemble. Autrefois, un homme se piquait de n'avoir rien que de grand chez lui, même jusqu'aux plus communs ustensiles. À plus forte raison, un grand personnage doit-il faire en sorte que toutes les perfections de son esprit soient grandes. Comme tout est immense et infini en Dieu, tout doit être grand et majestueux dans un héros. Toutes ses actions, et même toutes ses paroles, doivent être revêtues d'une majesté transcendante. 297. Faire tout comme si l'on avait des témoins. C'est un homme digne de considération que celui qui considère qu'on le regarde ou qu'on le regardera. Il sait que les parois écoutent et que les méchantes actions crèveraient plutôt que de ne pas sortir. Lors même qu'il est seul, il fait comme s'il était en la présence de tout le monde parce qu'il sait que tout se saura. Il regarde comme des témoins présents ceux qui, par leur découverte, le seront après. Celui-là ne craignait point que ses voisins tinssent registre de tout ce qu'il faisait dans sa maison, qui désirait que tout le monde le vît. 298. L'esprit fécond, le jugement profond et le goût fin. Ces trois choses font un prodige et sont le plus grand don de la libéralité divine. C'est un grand avantage de concevoir bien, et encore un plus grand de bien raisonner, et surtout d'avoir un bon entendement. L'esprit ne doit pas être dans l'épine du dos, ce qui le rendrait plus pénible qu'aigu. Bien penser, c'est le fruit de l'être raisonnable. À 20 ans, la volonté règne, à 30, l'esprit, à 40, le jugement. Il y a des esprits qui, comme les yeux du lynx, jettent d'eux-mêmes la lumière, et qui sont plus intelligents quand l'obscurité est plus grande. Il y en a d'autres qui sont d'impromptus, lesquels donnent toujours dans ce qui est le plus à propos. Il leur vient toujours beaucoup et tout bon, fécondité très heureuse. Mais un bon goût assaisonne toute la vie. 299. Laisser avec la faim. Il faut laisser les gens avec le nectar sur les lèvres. Le désir est la mesure de l'estime. Jusque dans la soif du corps, c'est une finesse de bon goût que de la provoquer et de ne la contenter jamais entièrement. Le bon est doublement bon lorsqu'il y en a peu. Le rabais est grand à la seconde fois. La jouissance trop pleine est dangereuse, car elle est cause que l'on méprise la plus haute perfection. L'unique règle de plaire est de se trouver un appétit que l'on a laissé affamer. S'il le faut provoquer, que ce soit plutôt par l'impatience du désir que par le dégoût de la jouissance. Une félicité qui coûte de la peine contente doublement. 300. Enfin, être saint. C'est dire tout en un seul mot. La vertu est la chaîne de toutes les perfections et le centre de toute la félicité. Elle rend l'homme prudent, attentif, avisé, sage, vaillant, retenu, intègre, heureux, plausible, véritable et héros en tout. Trois S le font heureux. La santé, la sagesse, la sainteté. La vertu est le soleil du petit monde et a la bonne conscience pour hémisphère. Elle est si belle qu'elle gagne la faveur du ciel et de la terre. Il n'y a rien d'aimable qu'elle, ni de haïssable que le vice. La vertu est une chose tout à bon. tout le reste n'est qu'une moquerie. La capacité et la grandeur se doivent mesurer sur la vertu et non pas sur la fortune. La vertu n'a besoin que d'elle-même. Elle rend l'homme aimable durant sa vie et mémorable après sa mort.